À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question, c'est une émission spéciale, il sera question du baptême des enfants. Pourquoi? On va se poser la question qui se pose de plus en plus, beaucoup de gens se la posent. Hein, pourquoi baptiser les petits-enfants plutôt que d'attendre et de leur donner le choix, quitte à les former dans un enseignement religieux, tout ça, mais ils auraient le baptême, certains prétendent, vers l'âge de 3, 4, 5 ans, alors qu'ils en garderaient le souvenir, ou plus tard, ou même, on porte ça jusqu'à 18 ans. Hein. Alors, ça dépend des conceptions qu'on se fait du baptême. Et il y a bien des ouvrages qui paraissent actuellement sur cette question-là, et j'ai tiré, moi, les idées que je peux partager dans cet ouvrage que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Le guide des difficultés de la foi catholique de l'abbé Pierre de Couvemont, paru aux éditions du Cerf. C'est le chapitre 28e. Je vous ai recommandé très souvent cet ouvrage qui a 36 chapitres extrêmement intéressants sur toutes sortes de questions que j'ai traitées en ondes, parfois en oubliant de mentionner que ça venait de l'abbé Pierre de Couvemont, et je m'en excuse. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on se souvient, les familles chrétiennes avaient le souci de faire baptiser leurs enfants le plus tôt possible. Moi, je suis né un 4 et j'ai été baptisé le lendemain, le 5, il y a en 1926. C'était comme ça à l'époque. Et souvent, on était baptisé le jour même. Hein. Nous étions donc baptisés en général le lendemain de notre naissance. Certains curés ne faisaient pas sonner les cloches. Paraît-il, j'ai jamais entendu parler de ça, mais il paraît que c'était comme ça, ne faisait pas sonner les cloches si le sacrement était donné plus d'une semaine après la naissance du bébé, comme pour punir les parents. Quel échange étrange, quelle chose étrange. Hein? Au début du siècle, hein, il y a près de 100 ans, beaucoup de chrétiens croyaient encore que si l'enfant ne recevait pas le baptême, il était privé à jamais du bonheur éternel. Je me souviens, on nous enseignait ça au début des années 30. Hein, les enfants morts sans baptême, eh bien, non, disait-on, que des facultés naturelles, que des tendances et des aspirations naturelles vers Dieu, ils ont en lui, en Dieu, leur vie, leur lumière, leur joie, leur bonheur, mais d'ordre seulement naturel, à travers les ombres de leur pensée humaine. C'est ce que disait un bon chanoine, le chanoine Didiot, en 1896, qui était quand même l'ancien doyen de la faculté de théologie de Lille. Hein? Et puis, on croyait ça. Alors, il s'en allait au limbe. Les jansénistes, eux, bien plus sévères, terribles, ces jansénistes, ils croyaient que les enfants qui mouraient sans recevoir le baptême allaient purement et simplement en enfer. Alors, les enfants mouraient, en effet, en étant encore marqués, disait-il, par la souillure du péché originel qui s'était transmis pendant 4000 ans, ou davantage, et pendant 6000 ans, et avec les recherches anthropologiques, bien, il fallait monter ça à 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, et là, on est rendu peut-être à 4 millions. Ça fait une souillure qui se transmet pendant longtemps. Oui, on ne sait pas trop pourquoi elle se transmettait. C'est très étrange, tout ça. Hein? Et aujourd'hui, au contraire, les chrétiens ne croient plus à l'existence des limbes. Heureusement, dit justement l'abbé Pierre de Couvemont, qui est un spécialiste de Thérèse l'Enfant Jésus, prédicateur de retraite et homme d'une profonde piété, c'est l'auteur de ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le guide des difficultés de la foi catholique, et dit heureusement qu'on ne croit plus aux limbes. Ce ne fut jamais un dogme, heureusement, de l'enseignement officiel de l'Église. Alors, les chrétiens ne font donc pas baptiser leurs enfants pour leur assurer le ciel. Même s'ils ne sont pas baptisés, ils iront jouir de Dieu au paradis. Alors pourquoi précipiter le baptême, se pose-t-on la question. Hein? C'est ça que je vous demande aujourd'hui. D'ailleurs, la mortalité infantile a heureusement reculé. C'est moins dangereux de ne pas baptiser un enfant, puisqu'il va c'est très rare qu'il meure. C'est très très rare qu'il meure tout à coup. On peut donc retarder de plusieurs semaines, et même de plusieurs mois, la date de la célébration, sans prendre de gros risques. C'est souvent ce que l'on fait les prêtres préférant baptiser plusieurs enfants à la fois au bout d'un mois ou deux mois. Et ça fait plus communautaire, et les parents souvent n'aiment pas ça, préfèrent avoir des baptêmes individuels. Alors pourquoi cet abandon de la croyance au limbe? Sans nier l'existence du péché originel au sens large du terme, la réflexion théologique contemporaine a remis en valeur l'insistance avec laquelle l'Écriture sainte affirme que le Christ est mort pour tous les hommes, comme il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5. Mais tous les êtres humains sont appelés donc à devenir dans le Christ participants de la nature divine. Participer à la nature divine, c'est très, très, très fondamental pour nous, chrétiens, catholiques. Et dans cette perspective, il n'est plus question d'affirmer l'existence d'un bonheur de seconde classe purement naturel pour les enfants morts sans baptême, là, qui s'en vont dans les limbes. Le Concile Vatican II a pleinement ratifié cette vision théologique. Ça vous inquiète? Vatican II s'est prononcé. Voici le texte. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est également unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint, qui est Dieu, offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'est dans la constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps. Et à plusieurs reprises, écoutez bien, c'est important, le Concile Vatican II affirme que l'Esprit Saint n'est pas seulement à l'œuvre chez les baptisés, mais dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté. Comme le cœur de Bouddha qu'on a vu hier, qui réformait l'hindouisme et le transformait en une religion où on rejette les castes et le mépris des autres, où la compassion règne, où le rejet des désirs faux, des choses fausses, est rejeté. Rappelons que les chrétiens n'ont pas attendu Vatican II pour le savoir de toute façon. Les Actes des apôtres nous présentent bien l'Esprit Saint s'emparant d'un centurion païen, romain, qui s'appelle Corneille, puis sa famille, après qu'ils ont écouté l'enseignement de Saint-Pierre. Vous vous souvenez, c'est dans les Actes des apôtres. Ce qui fait dire à l'apôtre, justement, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous, ils l'avaient reçu avant d'être baptisés, donc. Et chaque fois que l'Église, c'est Saint-Pierre qui parlait, le premier pape, et chaque fois que l'Église baptise un adulte, elle a bien conscience de conférer le baptême à quelqu'un qui a déjà reçu le don de l'Esprit. On lui demande en effet d'y proclamer sa foi au Christ. Or, nous savons que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est dans l'Esprit Saint. Il faut qu'il ait reçu l'Esprit Saint pour le dire. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Alors, l'Église enseigne donc depuis des siècles, avec saint Thomas d'Aquin, que Dieu n'a pas absolument lié le don de sa grâce à la réception des sacrements. Je ne nie pas l'importance des sacrements. Je dis tout simplement ce que saint Thomas d'Aquin dit. J'espère que tout ça est bien clair. Mais alors se demande de plus en plus de parents chrétiens, pourquoi baptiser les petits-enfants? Ce serait pas plus logique d'élever les enfants chrétiennement, comme j'ai dit tout à l'heure, de les initier à la vie évangélique, à la prière, puis d'attendre pour les baptiser qu'ils aient, disons, atteint l'âge de raison. Et qu'ils soient capables de prononcer eux-mêmes, là, la triple profession de foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Or, l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes en 1971, il y avait une grande assemblée, très importante. J'y suis revenu souvent parce que c'est un texte très important. Ils avaient publié une déclaration qui autorise les parents chrétiens à demander pour leurs enfants un baptême par étapes. Le texte épiscopal affirme néanmoins que les parents sont toujours appelés à faire baptiser leurs enfants tout petits. D'autre part, il y a une instruction sur le baptême des petits-enfants qui a été publiée en 1980 par le Vatican, par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et là, on a précisé que l'existence d'un rituel pour les enfants parvenus à l'âge de la catéchèse, donc à 6 ans, si vous voulez, à l'intérieur du rituel pour les baptêmes des adultes, ne signifie absolument pas que l'Église préfère ou considère comme normal le renvoi du baptême à cet âge, l'âge de la catéchèse. Pas de nom. Si vous le voulez bien, je vais vous faire une espèce d'histoire du problème. Puis ensuite, on va analyser ensemble les raisons qui militent en faveur de l'une ou de l'autre thèse. Bon, la pratique de l'Église a bien évolué au cours des siècles. Savez-vous que le Nouveau Testament ne nous donne pas d'arguments convaincants en faveur du baptême des enfants? Au chapitre 10 des Actes des Apôtres, il semble bien que ce soit toute la famille de Corneille qui a été baptisée, mais cela n'est pas dit explicitement, alors on n'est pas sûr. Au IIIe siècle, le baptême des enfants est une pratique connue, puis déjà traditionnelle. Au IIIe siècle, on peut voir ça dans un ouvrage, La Tradition apostolique. C'est une œuvre d'Hippolyte de Rome qui est rédigée en l'an 215. Il y a longtemps, comme vous voyez. Et on y décrit le baptême solennel des enfants et des adultes au cours de la veillée pascale. C'est dit, voici le texte, « On baptisera en premier lieu les enfants. Tous ceux qui peuvent parler, donc il y en a qui ne peuvent pas parler, parleront pour eux-mêmes. Quant à ceux qui ne le peuvent pas, leurs parents parleront pour eux, comme on fait au baptême aujourd'hui. Hein? Quant à ceux, les enfants qui ne peuvent pas parler, leurs parents parleront pour eux, ou quelqu'un de leur famille, le parrain, la marraine. On baptisera ensuite les hommes, puis les femmes. Et quelques années plus tard, eh bien, Cyprien, évêque de Carthage, répond à l'un de ses collègues qu'il n'y a aucune raison d'attendre 8 jours pour baptiser un nouveau-né. Il faut noter aussi des épitaphes, vous savez, sur les tombes, une épitaphe chrétienne inscrite à cette époque sur une tombe d'enfant. C'est écrit « Apognanus », le nom du petit bébé, mourut à 1 an et 9 mois. Il fut baptisé le jour même de sa mort à la demande de sa grand-mère. Mais la pratique du baptême des tout-petits est déjà discutée. Hein? Tertullien, dont je vous ai déjà parlé, le premier écrivain latin français, le premier écrivain latin chrétien, pense qu'il est préférable, lui, ce Tertullien, de différer le baptême des tout jeunes enfants. Par contre, Saint Grégoire de Nazianze, dont je vous ai parlé aussi, estime, lui, qu'il faut les baptiser si quelque danger se présente, mais qu'il est préférable d'attendre la 3e année, voyez-vous, à l'âge de 3 ans. Il dit pour qu'ils puissent entendre quelque chose du sacrement et y répondre. Et sans doute ne comprennent-ils pas très bien, mais ils sont impressionnés. Lui-même n'avait pas été baptisé dès sa naissance. Et d'ailleurs, la plupart des pères de l'Église du IVe siècle n'ont reçu le baptême qu'à l'âge adulte, alors qu'ils étaient nés dans des familles profondément chrétiennes. Par exemple, le père de Grégoire de Nazianze, dont je viens de vous parler, était évêque. Alors, le clergé de l'époque n'exhortait jamais les fidèles à faire baptiser leurs jeunes enfants. Il leur demandait, par contre, de ne pas différer indéfiniment la date de leur propre baptême. Les adultes attendaient souvent jusqu'à quasiment leur mort. Beaucoup trop de chrétiens avaient en effet tendance à ne demander ce sacrement qu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que ça les dispensait de se soumettre, après la confession, grosse confession, à la pénitence publique en cas de manquement grave aux exigences évangéliques. Autrement dit, du 2e au 4e siècle, le baptême des petits-enfants est une possibilité offerte aux parents chrétiens, mais il n'est ni présenté, ni ressenti comme une obligation. On verra la suite tout à l'heure. Après avoir écouté justement de jeunes enfants, les petits chanteurs de Saint-François de Versailles, sur un disque de Radio Notre-Dame, qui nous chante du Victoria, un kyrie de la messe « O Magnum Mysterium ».
Oh.
Alors passons maintenant à Saint-Augustin pour voir ce que lui pensait. Vous savez, il était évêque d'Hippone, juste autour des années 400, là, de 392 à 430, il était évêque longtemps. Et Saint-Augustin est amené à développer la théologie du baptême dans des controverses qu'il avait avec les donatistes et les pélagiens. Les donatistes, c'est une église schismatique, donc séparée de l'église catholique, qui a été appelée comme ça, donatiste, à partir du moment où elle a été dirigée par un dénommé Dona, pas Saint Dona, non, qui était évêque de Numidie. Donc les donatistes reprochaient aux responsables de l'église officielle, catholique, d'avoir souvent reçu leur consécration épiscopale des mains d'un évêque apostat, coupable donc d'avoir livré les livres sacrés à la police impériale de l'empereur de Rome au moment de la persécution de Dioclétien, qui était l'empereur. Et aussi, ces donatistes, ben, ils rebaptisaient les chrétiens qui voulaient entrer dans leur communauté parce qu'ils considéraient pas ça valable, un baptême donné par quelqu'un qui était apostat. Mais Saint-Augustin, au contraire, considérait, lui, comme valide le baptême donné par ces schismatiques, ces gens qui étaient en dehors de l'Église. Alors, tous les baptêmes qui sont donnés dans la grande, grande Église séparée, non unie, que nous avons aujourd'hui dans le 20e siècle, séparée en de multiples églises, tous ces baptêmes sont valides. On peut peut-être s'en surprendre quelques auditeurs. Où est-ce qu'on trouve ça? Saint-Augustin dit que ce soit Pierre, Paul ou Judas qui baptise, c'est toujours le Christ qui baptise. Désormais, les chrétiens prirent une conscience plus nette que la valeur d'un sacrement ne dépendait pas des dispositions intérieures de celui qui le célèbre. C'est de là que ça vient l'origine de la doctrine de l'Église catholique sur l'efficacité des sacrements. Ex opere operato, comme on apprenait quand on était jeune, et non ex opere operantis. Ça veut dire, leur validité ne tient pas de la sainteté du célébrant, operantis, mais du bon accomplissement du rite, ex opere operato. Les gens se souviendront peut-être de ces expressions les plus âgées. Quant aux pélagiens, je vous ai dit que je vous parlerai des pélagiens, mais ils insistaient tellement sur le rôle de la liberté humaine dans l'œuvre du salut, qu'ils finissaient, eux autres, par minimiser le rôle de la grâce. C'est la liberté humaine, surtout. Alors, c'est oublier leur réponse à Saint-Augustin, l'importance de ce qu'ils considéraient comme le péché originel et l'absolue nécessité de la grâce pour en être libéré et pouvoir aimer vraiment Dieu et son prochain. Saint-Augustin voit dans le baptême des enfants la grande preuve, lui, de la gratuité absolue du salut. Si un enfant ne reçoit pas le baptême, il est damné. Oh là là! Non pas, c'est évident, à cause des péchés personnels, mais, disait-il, en châtiment du péché d'Adam. Celui-ci a fait de l'humanité une masse vouée à la damnation. Imaginez, Adam a fait de toute l'humanité une masse vouée à la damnation. Quel enseignement étrange, hein? Moi, j'ai jamais été capable de comprendre ça depuis l'âge de 14-15 ans. Et seule la grâce victorieuse du Christ peut délivrer les élus. C'est triste de lire des choses comme ça. Saint-Augustin n'y allait pas donc de main morte. L'évêque d'Hippone, heureusement que le Concile Vatican II nous enseigne bien des choses bien différentes, hein. L'évêque d'Hippone ajoute quand même, Saint-Augustin, là, il ajoute quand même régulièrement que la peine des enfants morts sans baptême est la plus légère qui soit. Bon, je serais dans un coin de l'enfer où ça brûle moins, j'imagine, je ne sais trop. Beaucoup de pères en Occident adoptèrent cette opinion d'Augustin, imaginez. Comment peut-on accepter ça? Saint Fulgence, Saint David de Vienne, même Saint Grégoire le Grand, Saint Isidore, dont j'ai parlé aussi, Saint Anselme, j'en ai parlé aussi. C'est incroyable. C'est le temps de rappeler, c'est très important, que, écoutez bien, là, c'est très important, que l'Église ne ratifie pas forcément toutes les déclarations des docteurs qu'elle vénère. On peut vénérer Saint-Augustin, on peut vénérer ces saints-là, mais c'est pas obligé de croire tout ce qu'ils disent, hein? Même si ce sont des saints. D'ailleurs, quelques siècles plus tard, donc, Saint Thomas d'Aquin, oui, Saint Thomas d'Aquin, aura conscience d'exprimer sur cette question une opinion contraire à celle de beaucoup de pères de l'Église. Il les excusera. Un bon saint, lui. Il va les excuser en rappelant le souci qu'ils avaient de s'opposer aux erreurs de Pélage. Ils sont tombés dans des horreurs. Or, du 6e au 13e siècle, la pratique du baptême des petits-enfants se généralise dans l'Église. Bon, on demande d'abord aux parents de les faire baptiser, sauf cas de mort imminente, à Pâques ou à la Pentecôte. Il fallait donc attendre à Pâques ou la Pentecôte. On leur demande ensuite de plus en plus de les baptiser dans les 30 jours qui suivent leur naissance. Puis, on peut en venir à saint Thomas d'Aquin, donc, qui, lui, systématise au 13e siècle la doctrine sur le baptême des enfants. Il dit « Tout laïc, même non baptisé, peut et doit baptiser un enfant en danger de mort. » Il lui suffit d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Et saint Thomas d'Aquin dit aussi qu'il ne faut pas baptiser contre la volonté de leurs parents les enfants de juifs ou d'infidèles. On n'a pas le droit d'aller baptiser nos petits-enfants, mettons, dont les parents seraient devenus, je ne sais quoi, musulmans. Mais on ne va pas les baptiser. Faut pas faire ça. Puisque le droit naturel fait dépendre l'éducation des enfants de la volonté de leurs parents. C'est les parents. Saint Thomas ajoute que l'enfant incapable de foi personnelle est baptisé dans la foi de l'Église. Il est baptisé dans la foi de l'Église. Il devra accéder à cette foi personnelle pour être sauvé. Et rappelons qu'au XIIIe siècle, le baptême normal, même en cas d'urgence, était le baptême par immersion. C'était le baptême par immersion dans ce temps-là. Quant aux enfants morts sans baptême, saint Thomas croit qu'ils jouiront corps et âme d'un réel bonheur, mais resteront éternellement privés de la vision surnaturelle de Dieu. C'est l'histoire des limbes. Cette doctrine des limbes va rester l'enseignement courant de l'Église jusqu'au milieu du XXe siècle, où heureusement on la rejettera. On la trouve encore énoncée, d'ailleurs, même jusqu'en 1923, dans le Dictionnaire de théologie catholique. Imaginez ce grand dictionnaire si important. Et maintenant, tournons-nous vers les églises protestantes, les églises de la Réforme, qui acceptent dans leur grande majorité la pratique du baptême des petits-enfants, comme nous, font comme nous. Sauf qui? Les anabaptistes de Thomas Münzer. Lui, c'est au tout début du protestantisme, c'est un agitateur, peut-être un exalté, qui est mort en 1525. Le protestantisme, on peut dire, apparaît vers 1517, 1520, 1521, puis lui est mort en 1525. Fondateur des anabaptistes en Allemagne. Puis il y a les baptistes aussi, que l'on connaît bien, au nombre de quelques dizaines de millions aujourd'hui sur la Terre, et regroupés dans l'Alliance baptiste mondiale, qui ne pratique que le baptême des adultes par immersion. Bon, il y a des sectes aussi, mais je ne parle pas des sectes, je parle des gens de la Réforme. Je vous ai déjà expliqué la raison pour laquelle l'Église ose affirmer aujourd'hui que les enfants morts sans baptême jouissent eux aussi du bonheur éternel du ciel. Je vous ai déjà expliqué ça dans une autre émission. Mais cette nouvelle vision théologique et la situation actuelle de l'Église en Occident amènent aujourd'hui les chrétiens à repenser leur conception du baptême des enfants. On insiste davantage maintenant sur l'importance de la préparation du baptême par les parents. Le parrain et la marraine doivent être préparés. Ils doivent être, on peut dire, confirmés dans leur foi. Je me souviens d'un village à Saint-Anselme, près de Québec, où ça se pratique. Alors les types, les jeunes, là, de jeunes parents de 20, 24, 25, 26, qui travaillent dans des usines ou qui sont directeurs de ça ou qui sont marchands, vont trouver au bowling ou ailleurs, ou à une occasion de fête ou en skidoo, des gens qui attendent un enfant dans la même paroisse, puis leur dit hey, là, il faut venir à la paroisse, là, je vais t'enseigner ça, qu'est-ce que c'est que le baptême, là, tu fais mieux de venir autrement, hey, puis ça se parle comme ça, et la foi se transmet. Et la préparation au baptême se fait par ces laïcs sous la conduite des curés, du prêtre et de son vicaire, et c'est très, très bien fait, et la pratique religieuse, les enfants qui sont à la messe, là, à l'église Saint-Anselme, c'est inouï. Ah, une paroisse vivante comme j'en ai rarement vu. Alors, on insiste aussi sur l'importance de la communauté chrétienne qui va accueillir l'enfant, donc, et le faire grandir dans la foi. C'est ce qu'ils font à Saint-Anselme, près de Québec. Puis le discernement a opéré aussi, on insiste là-dessus, Lorsque des parents demandent le baptême à leur enfant, est-ce qu'ils sont vraiment décidés là, à lui donner une éducation chrétienne, pas l'envoyer au catéchisme? Pas quoi bon baptiser cet enfant-là, déposer dans son cœur le germe de la foi, si ce germe ne rencontre aucun terrain favorable pour s'épanouir? Puis il faut aussi penser au salut de tous les hommes. Hein? C'est pour tous, baptisés ou non, que le Christ est mort et ressuscité. Alors le sort des enfants morts sans avoir été baptisés a cessé d'être une question angoissante. On pense davantage au fruit du baptême, à la grande famille du corps mystique de l'Église, à la vie de Dieu dans l'âme. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Il y a un certain nombre de parents chrétiens qui demandent aujourd'hui pour leur enfant un baptême par étapes. Hein? Saviez-vous ça? Présenté à l'Église dès sa naissance, l'enfant ne recevra le baptême qu'après avoir reçu une éducation chrétienne qui lui permette de proclamer sa foi ce jour-là. Donc, assez jeune quand même, hein? Ces étapes correspondent aux trois parties de la célébration d'un baptême d'enfant, donc l'accueil, qu'on connaît, quand il y a un baptême, il y a un accueil, ensuite la liturgie de la parole, on lit des textes de la Bible, puis le baptême proprement dit. Alors la grande majorité des parents chrétiens continuent par contre à faire baptiser leurs enfants quelques semaines ou quelques mois après leur naissance. Et quels sont les arguments avancés par les uns et par les autres, hein? Alors, les raisons invoquées pour attendre, là, ce sont des raisons psychologiques d'abord. Je vous donne celle-là, puis ensuite, je vais vous donner les autres, ceux qui préfèrent baptiser leurs enfants jeunes. Les raisons psychologiques pour attendre, c'est que les jeunes ne puissent pas reprocher aux parents plus tard d'avoir pris un engagement à leur place. Il y a des jeunes qui, devenus incroyants, demandent même que leur acte de baptême soit arraché du registre. C'est arrivé beaucoup dans le bas du fleuve, ça. Des jeunes devenus croyants aussi, et même fervents, qui déplorent qu'il n'existe pas un sacrement pour accompagner, traduire et sanctifier leur conversion d'adulte. Hein? Parce qu'ils peuvent arriver tout à coup à 18, 20, 22, 25 ans à se dire, bon, ben j'ai décidé d'être catholique, là, j'en ai marre de la drogue, du sexe, des idioties, bon, tout ça, je me suis lancé là-dedans, je pensais trouver le bonheur, je me convertis. Ça arrive souvent de nos jours, hein, soit dans le renouveau charismatique, mais aussi dans toutes sortes de mouvements de jeunes et de moins jeunes. Ils aimeraient peut-être qu'il y ait une espèce de forme de baptême, mais c'est pas possible. Autrement dit, dans le baptême d'un bébé, il prétend que l'aspect engagement du sacrement est tout à fait gommé et que le rite du baptême des enfants est dépouillé de toute ratification personnelle. Il se demande si ça n'a pas un caractère quelque peu magique. Bon, la deuxième raison, c'est les raisons socioculturelles. Premièrement, ces gens-là pensent que la régression de la mortalité infantile, autrefois la grande raison qui poussait les parents chrétiens à faire baptiser leurs enfants au plus tôt, bien, c'est disparu. Hein? Je me souviens, quand on était jeune, on nous disait qu'on pouvait baptiser des enfants à la course s'ils mouraient, là, s'ils étaient en danger de mort, avec du Coca-Cola. C'était la mode du Coca-Cola dans le temps. Ou du ginger ale. Mais qu'on pouvait pas baptiser avec une boisson forte, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire un alcool comme le whisky ou le gin, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau là-dedans. Alors, le pauvre petit s'en allait au limbe si on n'avait pas de Coca-Cola. Et si on n'avait pas d'eau, évidemment. C'était une étrange conception qu'on avait de Dieu. Deuxièmement, ces gens-là, pour les raisons socioculturelles, disent que la prise de conscience accrue de la responsabilité de chaque personne dans la conduite de sa vie, la liberté de choisir son conjoint, c'est comme ça aujourd'hui, c'est pas les parents qui décident. Ensuite, il est survenu depuis ce qu'on appelle la paternité et maternité responsable. Hein? Et puis, la participation dans toutes sortes de domaines de la société, les parents participent à toutes sortes de choses. Alors, bref, le baptême des petits-enfants ne relève-t-il pas de la mentalité qui autorisait jadis les parents à marier leurs enfants avec qui ils voulaient? Et ainsi, puisque les parents décidaient de ce que leurs enfants devaient faire pour se marier, c'était la même chose pour le baptême. On donnait le catholicisme, en somme, à des enfants qui n'en voulaient pas nécessairement. C'est ce qu'on prétend. Hein. Troisièmement, un autre argument que ces gens-là avancent, c'est l'éducation n'est plus le seul fait de la famille, mais aussi de l'école, du milieu, de travail, des camarades de loisirs, des médias. Et les parents d'aujourd'hui savent, ils peuvent plus façonner leurs enfants comme l'avaient fait leurs grands-parents. Hein. Les jeunes, c'est évident, ils subissent toutes sortes d'influences contradictoires. Alors pourquoi continuer à vouloir, disent-ils, leur imposer une foi religieuse catholique dès leur enfance? Puis quatrièmement, bien, le facteur temps qui est pris de plus en plus en considération. Hein, on n'admet plus de postulantes au Carmel à l'âge de 16 ans. Je suis sûr qu'on n'accepte plus personne à Saint-Benoît comme moi, on m'a accepté à 18 ans et quelques jours. Non, on retarde l'âge maintenant de l'engagement définitif dans le célibat consacré ou dans le mariage. Hein. Alors pourquoi ne pas adopter les mêmes principes pour l'adhésion à Jésus-Christ, disent ces gens-là? Oh, il y a d'autres raisons, il y a les raisons pastorales. Ils vont dire que c'est la crainte d'alourdir l'Église, de chrétiens qu'on appelle sociologiques. Vous savez, des chrétiens qui vont demander par la suite un mariage religieux sans aucune conviction chrétienne, ils savent même pas ce que c'est puis ils veulent pas le savoir. Ce qu'ils veulent, c'est une belle robe et de l'orgue et des cierges et un ministre du culte qui a de beaux ornements. Il y a la réticence aussi à célébrer des sacrements devant des assemblées indifférentes qui s'y ennuient puis qui pensent à autre chose. Hein? Les baptêmes où tout le monde s'ennuie. Mais j'assistais à un baptême d'une petite nièce où la plupart des gens étaient incroyants et ils n'y se sont pas ennuyés. Ça avait eu lieu à l'église Saint-Stanislas et le jeune vicaire avait si bien fait que tout le monde était intéressé. Ils étaient ravis et ils trouvaient ça tellement intelligent et tellement valable. Pourtant, c'était d'anciens catholiques, plus ou moins ennemis de l'Église. Désir aussi de revaloriser la démarche que l'on appelle la démarche catéchuménale. C'est ça qu'ils veulent, c'est les protestataires. Tous ceux qui ont participé à la préparation d'un baptême d'adultes ont tendance à penser, oh, quel dommage que nous n'ayons pas connu une démarche sacramentelle aussi consciente, aussi intelligente. Pourquoi ne pas offrir cette possibilité à nos enfants qui, eux, pourraient se préparer à leur baptême à l'âge plus, disons, de 12 ans, 13 ans, 15 ans, puis là, ils comprendraient quelque chose. Hein? Il y a des prêtres qui ont écrit des livres là-dessus, ou des articles dans le journal La Croix, ou d'autres ici au Québec, sur la désolation qu'ils ont de célébrer des sacrements où les gens ne comprennent rien. Mais enfin, on avance des raisons théologiques. Le baptême des enfants, est-ce qu'il n'a pas été longtemps motivé par la peur? La peur qu'il n'aille dans les limbes, comme je vous ai dit tout à l'heure, au cas où il viendra mourir, sans baptême. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Et puis, si le baptême d'adulte se généralisait, ben on montrerait mieux que toute vie chrétienne authentique suppose la rencontre personnelle du Christ, Jésus, ressuscité. C'est ça qui se devrait se faire dans la cérémonie de la confirmation que l'on donne maintenant à 13 ans. Mais est-ce que c'est réussi? J'en doute. Puis, en se précipitant pour baptiser les tout jeunes enfants, l'Église apparaît, disent-ils, trop comme la planche indispensable de salut, cette espèce de radeau, vous savez, un radeau de détresse. Là. Pas assez comme un signe de salut pour tous les hommes, ça n'a pas l'air de ça. Bon, mais c'est bien changé dans bien des cas. J'ai vu de très beaux baptêmes, comme je vous ai dit, celui de tout à l'heure, là, dont je vous ai parlé. Bon, il y a eu lieu il y a longtemps, il y a eu lieu il y a 13 ans, à Saint-Stanislas, sur le boulevard Saint-Joseph. Face à tous ces motifs de retarder le baptême des enfants, les raisons de le leur donner encore ne manquent pas, vous allez voir. Hein? Je commence. Alors voici les raisons de baptiser les petits-enfants. Notons tout d'abord que si l'habitude de retarder le baptême des enfants se généralisait, qu'est-ce qu'on ferait du catéchuménat de ces jeunes qui appartiennent à des familles chrétiennes? Ça poserait de vrais problèmes. Hein? À quel âge conférer le baptême? On pourrait se poser la question. À 7 ans, qu'on appelle l'âge de raison. 12 ans, l'âge qui est à peu près de la confirmation aujourd'hui. À 18 ans, l'âge où ils sont partis. Si on le donne trop tôt, le jeune pourra toujours dire plus tard qu'on a profité de sa naïveté pour lui faire proclamer sa foi à un âge où elle ne pouvait pas être adulte, sa foi, ou d'accord. Mais si on le retarde trop, qu'est-ce qui arrive? Mais on prive les enfants de la possibilité qu'ils ont retrouvée grâce à Saint-Pédis au début du siècle de communier très jeune, hein, comme on le faisait nous à 7 ans, aujourd'hui c'est 9, 10, 11 ans. Hein. Tout ça un peu triste, me semble. Je me souviens de mon petit-fils qui voulait communier à tout prix, à 7, 8 ans, qui criait dans la cathédrale, « J'en veux, je veux communier. » C'est triste. On y fait attendre trop longtemps. Qui jugera de l'aptitude d'un enfant à proclamer sa foi? Disent les gens qui veulent baptiser les enfants. Ne risque-t-on pas de retomber dans les dangers du cléricalisme? Les parents ne sont-ils pas les mieux placés pour juger des dispositions de leur enfant? Et que deviendra le sacrement de confirmation? Il est vrai qu'on le donne maintenant 13 ans. Hein? Mais, de façon plus profonde, et là la grave question, quelles raisons peuvent invoquer les parents chrétiens qui désirent continuer à faire baptiser leurs enfants dès leur naissance? Ben, il leur suffit de se rappeler que, comme tous les autres sacrements, le baptême est à la fois, et c'est fondamental, écoutez bien, c'est une célébration dans laquelle l'Église exprime quelques-unes de ses convictions fondamentales, et c'est un geste par lequel le Christ accomplit dans les cœurs, même des bébés, son œuvre de salut. Dans le baptême d'un enfant, l'Église proclame avec joie un certain nombre d'aspects essentiels de la bonne nouvelle. Tout d'abord, et c'est fondamental, l'amour du Père nous précède toujours. Je répète, l'amour du Père nous précède toujours. Il nous aime avant même que nous ne soyons capables de croire en lui et de l'invoquer. Nous sommes toujours en retard vis-à-vis de lui. Et le baptême d'un enfant manifeste quoi? La gratuité totale de l'amour de Dieu pour nous. Une gratuité dont on trouve un écho dans l'amour des parents pour leurs enfants avant même leur naissance et avant même leur conception. Hein? Il y a des enfants, des parents qui désirent tellement un enfant qu'ils l'aiment déjà avant de le concevoir. Toutefois, le baptême des enfants n'est pas le seul signe de cette absolue gratuité de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime dès notre conception. Il nous aime déjà avant. La conversion fulgurante d'un adulte, d'ailleurs, qui rencontre Dieu sans l'avoir aucunement cherché, comme André Frossard, c'en est une autre manifestation. Puis souvent, moi j'ai vu ça autour de moi, des gens qui étaient baptisés mais qui avaient tout rejeté dès leur jeune âge, se convertissent. Est-ce que ce ne serait pas le fruit du baptême qu'ils ont reçu quand ils étaient jeunes? Et puis, n'oublions jamais que nous avons besoin d'être sauvés par le Christ. Nous sommes au cœur là du problème. Notre incorporation dans le Christ n'est pas quelque chose de facultatif. Pour devenir pleinement homme, il faut être repris en main par le Christ, Jésus ressuscité, celui qui est à la fois notre Créateur et notre Sauveur. On l'oublie trop. Notre Créateur, notre Sauveur, par lui, tout a été fait. Cela ne signifie pas que le Christ délaisse les non-baptisés. Mais les chrétiens qui font baptiser leurs enfants, ils manifestent à la face du monde que pour eux, l'intervention du Verbe incarné dans une vie humaine est indispensable à son accomplissement dès les premiers jours. L'adhésion à Jésus-Christ, pour libre qu'elle soit, n'est pas un luxe dont l'homme pourrait se passer. Dieu fait alliance avec l'homme. Mais ce n'est pas une alliance militaire ou commerciale qui est inutile aux gens qui sont forts. Non, non, non. C'est l'alliance entre le Créateur et sa créature. Une créature, c'est nous, ça aussi, incapable de se donner à elle-même la guérison et la divinisation qu'elle a été de se donner à elle-même l'existence. Qui s'est donné sa propre existence? Voyons, c'est Dieu qui nous la donne. Nous avons tous autant besoin du Verbe pour être restaurés que nous avons besoin du Verbe pour exister. Alors, on retrouve d'ailleurs cet aspect dans les autres sacrements. Le chrétien qui confesse ses fautes à un prêtre de l'Église catholique manifeste que c'est toujours par l'Église, son épouse, que le Christ répand son esprit dans le cœur d'un pécheur qui se convertit dans ce confessionnal ou assis à côté d'un prêtre en train de révéler sa peine et son chagrin. Puis enfin, n'oublions pas que l'Église accueille les pauvres et les petits. Le baptême des petits-enfants manifeste la vraie nature de l'Église, laquelle n'est pas... C'est pas une secte pour adultes vaccinés, comme dit quelqu'un, une serre chaude pour espèce sélectionnée, ni une cellule pour propagandiste chevronné, c'est André Manarange qui parle comme ça. Elle n'est pas réservée à une élite, l'Église. Donner à des bébés le baptême est le signe de l'amour universel du Père. Heureux d'accueillir les tout-petits dans son royaume. Mais le baptême n'est pas seulement une célébration ecclésiale. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est. Je vous ai dit que le baptême n'est pas seulement une célébration ecclésiale. aussi belle, et aussi bien célébrée que ce soit. C'est aussi un geste du Christ. En demandant à l'Église de baptiser leurs enfants, des parents chrétiens permettent au Christ d'agir en lui, à une profondeur insoupçonnée. Le Christ fait entrer dans l'enfant sa vie. Puis il fait entrer cet enfant dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Le Christ rend l'enfant participant de sa nature divine. Il en fait un enfant de Dieu au sens fort du terme. Avons-nous assez la foi pour le croire? Cette action du Christ chez un enfant, ça demeure aujourd'hui la grande, grande raison de le baptiser. Il se produit une véritable effusion de l'esprit au plus intime de son être. Pour le diviniser, le purifier, le transformer, si nous sommes assez intelligents, nous parlerons à l'oreille de son cœur. Nous transmettrons par notre exemple le Christ vivant pour qu'il grandisse dans l'âme de nos enfants. Certes, nous croyons que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'est dans l'Église, dans le monde de ce temps, de Vatican II, ça. Mais c'est pas une raison pour priver un enfant d'être empoigné tout jeune par le Christ ressuscité, afin de devenir membre de son corps mystique et participant de sa vie, la grandeur du baptême, y pense-t-on? Il y a une intervention personnelle du Christ Jésus chaque fois que des parents présentent un enfant à l'Église pour qu'il soit baptisé. Écoutez bien, Jésus l'embrasse littéralement dans ses bras de ressuscité pour le faire entrer où? Dans la grande famille trinitaire qui est au cœur de notre foi. Y croyons-nous assez à la Trinité? Ah! L'eau dans laquelle l'enfant est baptisé est à la fois symbole de mort et de vie. Hein? Le baptismal, c'est le tombeau du Christ où meurent les forces du péché qui sont en lui. Mais les forces du péché, c'est-à-dire cette espèce de tendance au mal qu'il y a toujours dans tous les hommes à cause de sa liberté, dans laquelle il est créé, nous sommes tous créés libres, pour être capables d'aimer. Mais c'est aussi la fontaine de vie où le bébé reçoit une participation réelle à la vie du Christ ressuscité en répandant dans le cœur du baptisé l'Esprit Saint dont il est lui-même tout imprégné. Le Christ réalise en lui une nouvelle création, une nouvelle création. Il y a l'onction du Saint-Crème là, qui lui est faite sur la tête. Qu'est-ce que ça manifeste si c'est non le caractère indélébile de chrétien dont il est désormais marqué pour l'éternité? Il entre à jamais dans le peuple de Dieu, peuple de prophètes qui vont crier leur joie d'être chrétiens, qui seront criés devant les injustices, qui seront propager l'Évangile. Dans ce peuple de prêtres, car nous sommes tous prêtres, dans ce sens que notre existence doit être une éternelle offrande à la gloire du Père. Mais ça se fait, ça, particulièrement à l'Eucharistie, en célébrant avec un prêtre ministre ordonné à cette fin qui a des caractères que nous n'avons pas, nous. Vive la grandeur de nos prêtres. Et nous sommes aussi dans ce peuple de rois. C'est-à-dire que nous avons le devoir, de par notre vocation, de gérer les choses temporelles. Dans la justice, en les ordonnant selon ce que Dieu veut, puis de chercher que Dieu règne dans toutes les âmes. Si tous nos premiers ministres, si tous nos ministres, nos députés, les gens responsables, si tous les gens qui ont des grandes responsabilités partout dans les moyens de communication, etc., savaient ça. Et le faisaient. Selon leur baptême. Il reçoit aussi cet enfant le germe des vertus de foi, d'espérance et de charité. C'est pourquoi on peut voir ça dans l'Épître aux Hébreux qui donne au baptême le nom d'illumination. Je vous ai parlé de Bouddha, l'illuminé, hier. Ben, l'illumination, nous aussi, nous l'avons. Elle vient de l'Esprit Saint. Elle vient de notre baptême. Nous sommes éveillés, nous sommes illuminés par la lumière du Christ. Encore faut-il en prendre conscience. Il faut-il se rendre compte que rien ne sert de gagner l'univers si nous venons à perdre notre âme. Et c'est également la raison pour laquelle un cierge, vous vous souvenez, au baptême, il est remis au baptisé à la fin de la célébration. C'est le parrain qui le tient souvent. Ayant reçu dans son cœur la lumière intérieure de la foi, il sera plus tard capable. Si cette foi est normalement éduquée et bien éduquée, bien il sera capable de percevoir la lumière du Christ ressuscité, qui est à l'œuvre dans sa propre histoire à lui, puis dans toute l'histoire du monde, puis dans le monde entier. Il verra les belles choses, et toutes les grâces que l'enfant recevra plus tard seront le développement de cette vie surnaturelle qui lui aura été donnée le jour de son baptême. Aussi est-il tout à fait normal de célébrer avec joie l'anniversaire de notre baptême. Moi, je cherche toujours à le célébrer, ce 5 septembre, le jour de mon baptême. Jamais je ne manque la messe ce jour-là, pour rendre grâce à Dieu. Le Christ agit d'ailleurs aussi dans le cœur de tous ceux qui participent à la préparation et à la célébration du baptême, car le Christ, lui, il se plaît avec amour à agir dans les cœurs par les gestes et les paroles de l'Église lorsqu'elle célèbre sa loi, sa foi. Alors, les arguments ne manquent donc pas pour encourager les parents chrétiens à faire baptiser, me semble, leurs enfants dès leur plus jeune âge. Mais à une condition, c'est qu'ils aient également à cœur d'éveiller la foi de cet enfant au plus tôt pour lui faire comprendre ce qui est vrai. C'est pas de porter tous les vêtements qu'il veut, puis c'est pas d'avoir tous les jouets, puis tout... C'est pas ça. C'est de prier tous les jours. Il faut prier avec ses enfants. C'est de les amener à l'Église en leur expliquant ce qui s'y passe. C'est leur faire savourer la beauté des textes en priant en Église, parce qu'ils s'apprennent à lire très tôt. Pour leur montrer la beauté des choses. Pour leur faire comprendre que le Christ dans l'hostie est présent vraiment. Et qu'ils le reçoivent avec amour et tendresse. Mais on ne pourra pas résoudre pour autant l'épineux problème pastoral posé par tous les parents qui demandent pour leur enfant le baptême sans aucun souci de l'éduquer plus tard dans la foi de l'Église. Et ça m'attriste au plus suprême degré. Tâchons de bien comprendre les prêtres. Les prêtres qui, conscients de leur mission, refusent parfois de brader les sacrements. Ils peuvent pas donner sacrement n'importe comment, n'importe qui. Pauvre prêtre, que c'est pas facile. C'est pas par désir d'être les pasteurs d'une église qui serait réservée à des familles chrétiennes privilégiées sur le plan de la foi. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais ils ont le désir, ces prêtres-là, de permettre aux enfants les plus défavorisés d'accéder eux aussi un jour dans les meilleures conditions à la lumière de la foi. Alors c'est pour ça qu'il faut suivre des cours avant de faire baptiser son enfant, puis de les suivre avec amour, puis d'essayer de comprendre l'essentiel. Je ne saurais trop vous recommander certaines brochures qui sont parues chez Novalis. Le baptême de notre enfant, ça coûte 2,5 $. Renaître de l'eau et de l'esprit, ça coûte 2 $. Le baptême des petits-enfants, 1,25 $. Mais aussi, je vous recommande les sacrements de Pierre Moreau, chez Novalis encore. C'est un petit livre qui n'est pas long, même pas 150 pages. Et pour ceux qui sont mariés, puis qui attendent des enfants, puis qui veulent approfondir leur amour, un beau, beau livre sur les mirages de l'amour. Qu'est-ce que c'est pour éviter les mirages de l'amour et aller vers l'amour vrai? C'est Xavier Lacroix, toujours chez Novalis. Xavier Lacroix, un très beau livre qui vient de paraître. Ah, c'est magnifique, je vous le recommande, 300 pages. C'est passionnant, de belles choses là-dedans sur l'amour. L'amour conjugal. Mais aussi l'amour en général.